Donc on prend la page 69, Mishnah numéro 4. La Mishnah nous dit la chose suivante. Il dit Shlosha Gitim Psulim. Trois actes de divorce qu'on va citer par la suite. Psulim, ils sont donc inaptes. Ça veut dire que la femme ne peut pas se remarier avec. Donc on n'a pas encore dit c'est quoi les trois, on va les citer juste après. Ve'im Niset Avalat Kasher. Donc on a trois guettes qui sont invalides, qui ne sont pas valides. Mais ils ont été invalidés par les Chachamim. C'est-à-dire qu'en vérité, selon la Torah, ils étaient valides. Mais les Chachamim les ont invalidés. Donc c'est pour ça que si la femme s'est quand même mariée, par exemple, elle ne savait pas que Bedi Avad, elle ne savait pas que le guet n'était pas kasher, elle a pris après, elle s'est déjà mariée, il y a eu des enfants, etc. Donc l'enfant qui est sorti de cette union, de l'union suivante, est kasher. On ne considère pas comme un mamzer. Alors, la Gemara explique que de manière générale, il y a Rabbi Meir, on va expliquer les trois avis, mais avant d'expliquer les trois avis, je vais vous expliquer ce que dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, il nous dit que, il a un principe qu'il amène dans la Gemara, qu'il répète plusieurs fois dans la Gemara Gittin, que « Kol ha-meshanem imadvea shetavu chachamim begittin, yotzi vavalad mamzer ». Rabbi Meir, il dit comme ça, il dit que tout celui qui change du modèle que les chachamim ont fixé, il doit divorcer, d'accord, c'est-à-dire que si la femme se remarie, elle doit divorcer, et l'enfant qui est né de cette union est mamzer. Ça, c'est un grand principe que Rabbi Meir dit dans la Gemara Gittin. Que celui qui ne suit pas ce que le Chachamim dit, non seulement que son guet n'est pas valide, mais l'enfant est mamzer. Donc elle doit redivorcer si elle s'est mariée à quelqu'un, et l'enfant est mamzer. Et là, ce que la Gemara dit, c'est que même Rabbi Meir, il sera d'accord dans les trois cas qu'on va citer, que l'enfant est kasher. Alors voici les trois guitines.
Trois exceptions, là.
D'accord. Trois exceptions. Première exception, Kata Virta Viado, Ve'en Ala Vedi. Si le mari a écrit le guet de sa main. C'est-à-dire qu'il a écrit le guet de sa main. Il a tout écrit à sa main, il a écrit, voilà, je m'appelle un tel, enfin tout le texte du guet de sa main. Mais, il n'y a pas de témoins qui ont signé. Et alors, s'il n'y a pas de témoins qui ont signé, alors, notre Mishnah va selon Rabbi Meir, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début de Gittin, on avait expliqué qu'il y avait une marloquette, une grande marloquette, qui avait, entre Rabbi Meir et Rabbi Yoshua, si aider Khatima Karté ou aider Messira Karté. C'est-à-dire, il y a une question qui a été posée dans la Gemara au tout début du Gittin. Est-ce que le plus important dans un guet, c'est les témoins qui signent sur le guet, ou est-ce que le plus important, c'est les témoins qui sont témoins du fait que le mari a donné le guet à la femme. Donc aider Khatima, ça veut dire les témoins de la signature, et aider Messira, c'est les témoins de la transmission, que le guet a bien été transmis de la main du mari à la main de la femme. Rabbi Meir pense que Eder Khatima Karté, que qu'est-ce qui sépare le mari de la femme, donc c'est quel témoin qui sont les plus importants, c'est les témoins de la signature. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? Regardez ce qu'il dit. Même Rabbi Meir sera d'accord que dans ce cas-là, le guet est kasher. Pourquoi? Parce qu'on a une jurisprudence qui dit Rabbi Meir. Rabbi Meir pense que quand une personne a écrit quelque chose de sa main, c'est comme si qu'il y avait 100 témoins qui ont signé. Si c'est un sofer qui avait écrit, là c'est autre chose. Le mari peut dire après, non, c'est pas moi qui ai écrit. Et si c'est l'écriture du mari, qu'on reconnaît l'écriture du mari, c'est comme si qu'il y avait 100 témoins qui ont écrit. Alors, les khatrila, on ne fait pas comme ça. Les khatrila, on demande des témoins pour que, comme ça, s'il y a un problème, on peut se tourner vers les témoins. Mais Bedi Avad, d'accord, a posteriori, ça a déjà été fait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Même Rabbi Meir, il sera d'accord que, puisque le mari a signé dessus, il considère que c'est comme si qu'il y avait 100 témoins qui ont signé dessus. Donc ça, c'est le premier cas. Donc rappelez-vous, dans ce cas-là, c'est quoi la halakha? Les khatrila, on n'a pas le droit de le faire. Les khatrila, il faut signer. Mais si le guet n'a pas été signé, mais il a été écrit par le mari, le guet est kasher, donc l'enfant est kasher. Deuxième cas. Yesh alav edim, donc si c'est le sofer qui a écrit le guet, les témoins ont signé dessus, donc jusqu'ici il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le problème? Ve'en bozman. Ve'en bozman, ça veut dire qu'il n'a pas de zman, il n'y a pas de date qui est écrit sur le guet. Ça aussi, les chachamim ont interdit. À la base, selon la Torah n'a jamais demandé d'écrire la date. Mais les chachamim ont instauré que sur le guet, il faut toujours écrire la date. Pourquoi? Parce qu'après, on peut avoir des problèmes. Quel type de problème on peut avoir? Plusieurs problèmes. Je vais vous donner un exemple que la Gemara explique. Dit par exemple, si la femme avait des biens avant le mariage, elle avait un terrain. Donc on sait très bien que quand elle se marie, ce terrain, l'usufruit de ce terrain va appartenir au mari. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si le mari n'a pas écrit la date sur le guet? il va continuer à profiter de l'eau du fruit du terrain pendant 6 mois, 1 an. Et le jour où on va l'attaquer en justice, on va dire oui, mais attends, vous êtes divorcé, vous n'avez pas le droit de vous en servir. Il va dire oui, mais j'ai pas divorcé il y a 1 an, j'ai divorcé il y a 2 mois. Quoi ? Et des tas de cas qu'on peut arriver comme ça, de problèmes qu'on a quand on ne met pas la date. Donc c'est pour ça qu'à la base, les Rahamim ont invalidé un guet qui n'a pas de date. Je ne sais pas comment c'est dans la loi française. Est-ce qu'un contrat qui n'a pas de date est valide ou pas valide ?
Évidemment, il n'est pas valide.
Il n'est pas valide ?
Il n'est pas valide, non.
Même s'il est signé, même s'il est...
Même un chèque, on peut te le refuser, on m'a dit.
S'il n'est pas daté.
Il n'est pas daté.
Voilà. Bon, donc on va bien.
Même un chèque.
Donc ça, c'est quelque chose que les Rahamim...
On peut te le refuser, s'il est pas daté.
Moi, mais j'ai eu des chèques qui sont revenus. J'ai eu un... Que les clients m'ont refusé parce qu'il n'est pas à date.
Non. Tu vois, par contre, c'est pas celui qui écrit qui doit... Tu vois, le bénéficiaire peut mettre la date.
Moi, je... Oui, mais je l'ai... on n'a pas vu. On a versé les chèques, il y a des chèques qui sont revenus, la banque elle a appliqué le...
Il y a un deuxième cas que la Gemara explique aussi, un risque quand on n'écrit pas de date, c'est quoi ? C'est elle dit, de peur que le mari voudra, écoutez bien ce que dit la Gemara, il voudra protéger la fille de sa sœur. C'est quoi cette histoire ? Vous savez qu'on a le droit de se marier selon la Torah, on a le droit de se marier avec la fille de avec sa nièce. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si Dieu préserve, sa nièce elle a trompé ? Et il sait que normalement selon la Torah, si elle a trompé et que c'était prémédité, c'est quoi la halakha ? Qu'est-ce que dit la Torah ? C'est quoi la sentence ? Si elle a trompé son
elle
a trompé son mari, et on a des témoins, et on sait qu'elle savait que c'était pas bien, on l'a prévenu, elle a quand même fait. C'est l'adultère. Elle est Hayav Mita.
Oui.
Elle doit être mise à mort. D'accord ? Lui, même s'il doit la divorcer, il va la divorcer parce qu'elle l'a trompé, mais c'est sa nièce. Alors il va se dire, je vais écrire un guet, sans date, et je vais dire qu'en vérité, elle était déjà divorcée à ce moment-là. Parce que ça me fait de la peine d'avoir mouru, je veux pas qu'elle meure, c'est ma nièce. Vous voyez comment on peut aller très très loin avec cette histoire de date ? L'esprit du juge peut aller très très loin. Donc c'est pour ça que les Rahamim m'ont instauré. Les Rahamim m'ont instauré qu'on est obligé, d'écrire la date. D'accord ? Mais le fait que les Rahamim m'ont instauré qu'il faut écrire la date, c'est seulement l'Echatrila. C'est-à-dire qu'a priori, il faut écrire la date sur le guet. Mais si le mari n'a pas écrit la date sur le guet, est-ce que le guet est quand même cachère ? Oui. Donc est-ce que si cette femme-là s'est remariée, elle a eu des enfants, est-ce que les autres enfants seront mamzer ? Non. D'accord ? Ça c'est le deuxième cas. Donc le premier cas, c'était un guet écrit par le mari, écrit par l'écriture de sa main, mais pas signé. Deuxième cas, c'est un guet qui a des témoins, donc signé, tout ce qu'il faut, mais qui n'a pas de date. Et enfin, troisième cas, Yesh Bozman, donc si c'est un guet qui a la date, d'accord, donc il a été écrit par le sofer, pas par le mari, il a été écrit par le sofer, il y a la date, mais ve'enbo ela edechad. D'accord ? Mais il y a un seul témoin. Il y a un seul témoin qui a signé.
Il n'y en avait même pas de témoin.
Attendez, il y a un seul témoin. Attention, il y a plusieurs mefarshim sur cette Mishnah, mais là, je vous explique comme Rashi. Parce qu'il y en a qui disent que dans ce cas-là, on parle aussi que c'est le mari qui a écrit le guet. Mais bon, je vous explique le plus simple comme Rashi, qui dit que, on parle ici d'un cas que le mari n'a pas écrit le guet. C'est le sofer qui écrit le guet. Donc je répète, le sofer écrit le guet. Il y a la date dessus, donc a priori le guet est cachère, mais où c'est qu'il y a un problème ? Il y a une seule témoin de signe, il y a un seul témoin au lieu de deux témoins. Là, normalement, c'est le Rahamim invalide, parce qu'un seul témoin, si Dieu préserve, il a quelque chose, s'il déménage, ou il meurt, ou Dieu préserve, je sais pas ce qui peut se passer, le guet ne vaut rien. On n'a plus chez Tiverson. Alors que quand on a deux témoins, on a plus de chance. Très bien. Donc normalement, le guet n'est pas cachère, le Rahamim ont invalidé le guet, mais ils ont invalidé, mais ils ont quand même mis la condition que si ça s'est passé, a fortiori, le guet est quand même caché et que les enfants ne sont pas même terres. Donc dans ces trois cas-là, Are Elou Shlosha Gitim Sunim, voici les trois guets qui sont pas saouls. Ça veut dire qu'il faut les refaire. Le jour où on se rend compte, il faut les refaire. Mais, Veim Niset, si la femme s'est mariée, Avalat Kacher, s'est remariée, l'enfant est cachère. D'accord. Rabbi Elazar Omer, oui.
Quand ils arriveront à l'âge d'adulte, donc pour les enfants pour se marier,
pas de problème.
Ils n'auront pas de problème.
Cacher, sans problème. Ils sont cachères. Le jour où on s'en rend compte, on refait un guet, c'est sûr ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de divorcer, on considère que la femme est cachée. La femme, enfin les enfants sont cachés.
Est-ce qu'on est assez compétent pour que si on demande la ketouba
des... Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus ce problème, puisqu'au jour d'aujourd'hui, les gens sont obligés de passer par le bed din pour un acte de divorce. Parce que sinon, ils ne peuvent pas se remarier.
Mais tu parles de tout de suite là. Mais il y a des gens qui sont arrivés, qui ont 60 ans, qui sont arrivés d'Algérie, ou de Tunisie, ou de Baba.
On est toujours passé par le bed din.
Oui, bah, est-ce qu'il est...
Ça fait des générations qu'on passe que par le badin. Et c'est beaucoup mieux, comme ça on a plus ces problèmes-là. Jamais aujourd'hui on entend que le guet a mal été écrit et qu'à cause de ça, le divorce n'était pas bon. On n'entend jamais des histoires comme ça.
Oui, parce qu'on n'en parle pas.
Parce que non, parce qu'aujourd'hui, c'est verrouillé. Aujourd'hui, on a un texte où on ne bouge pas, c'est le même texte pour tout le monde. Et il y a des procédures, et celui qui ne suit pas la procédure, il n'est pas divorcé, c'est tout.
Enfin.
Alors, Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar nous dit la chose suivante. Rabbi Elazar nous dit la chose suivante. Afalpi Shen Alav Edim. Il va encore plus loin que ça. Elazar.
Bon,
il dit Elazar ici.
Ouais.
Moi, c'est Elazar. En général, cette Mishnah, la Mishnah que j'ai ici, c'est un texte qui est bien vérifié. C'est la Mishnah du Rav Kehati. C'était le projet de sa vie, la Mishnah. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar, il dit. Afalpi Shen Alav Edim. Il va aller encore plus loin que ça. Même si les témoins n'ont pas du tout signé sur le guet. Et le mari n'a pas écrit le guet de sa main. Donc c'est un guet qui a été écrit de manière standard par un sofer. Il y a zéro témoin. Et là, Shintanola Bifnedi, mais qui lui a donné le guet devant des témoins. Donc il n'y avait pas des Ede Khatima, mais il y avait les Ede Messira, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il pense? Quand Kacher, le guet est Kacher. Parce que lui, Rabbi Elazar, il dit, mais moi d'après moi, quand? Donc il pense comme Rabbi Yoshua, que qui c'est qui... C'est quels témoins qui sont les plus importants? Ce n'est pas les témoins qui sont écrits sur le guet, mais c'est les témoins qui ont témoin de la transmission de la main du mari à la main de la femme. Très bien.
C'est lui qui a raison, hein, parce que dans les notations, il y a marqué Rabbi Eleazar. C'est une erreur, là, lors d'orthographe. Ouais.
Donc, Elash Nenelfnezim, Kacher, il est Kacher, Vegova Minchasim et Shubadim. Plus que ça. La femme, avec ce guet-là, elle peut aller pour rechercher sa ketouva des biens qui sont hypothéqués. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le mari, il fait le guet, d'accord? Imaginons que le mari s'est marié en 5760, d'accord? Il s'est marié en 5760, donc il s'est marié avec une femme. Tous les biens qu'il a, le mari, ils sont hypothéqués pour sa femme. C'est-à-dire que le jour où il divorce, eh ben, s'il n'a pas assez d'argent, on ira chercher de ses biens. On est d'accord? Si entre-temps, maintenant, le mari vend un de ses biens. Il avait des maisons, il avait des domaines, il a vendu. Et après, 15 ans plus tard, il divorce. Non, lui, le mari, il a vendu après le mariage. C'est quoi le din de l'hypothèque? C'est que la femme peut aller voir les gens qui ont acheté, et elle récupère les terrains. Mmh. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'elle leur dit, moi, j'étais avant vous. Vous êtes venu en 5765, moi, je suis là depuis 5760. Donc elle les dépossède. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à l'époque, les gens avaient l'habitude, avant d'acheter un terrain, ils se renseignaient qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la ketouba de la femme, pour savoir le jour J qu'est-ce qui va se passer. Et ils se renseignaient aussi, est-ce qu'il y a des problèmes de Shalom Bayit? Ah oui, c'était... Et quand une personne, on savait qu'il avait des problèmes de Shalom Bayit, il avait du mal à vendre son terrain.
C'est pour ça que maintenant, c'est des contrats ou pas des contrats. Communauté de biens ou séparation de biens.
Bon, ça, c'est pas chez...
C'est pas chez...
Ouais. Ah, mais c'est vrai, c'est une bonne idée.
De ça.
Oui, c'est une bonne idée.
C'est à la suite de ça que c'est
vrai. Vous voyez le problème? C'est-à-dire qu'à l'époque, quelqu'un qui avait du problème sur le bail, il avait du mal à vendre son terrain.
Ah ben oui.
C'est normal.
Il faut l'accord de
l'homme. Okay, il dit, attends, si tu divorces dans un an, qu'est-ce que je fais avec ce terrain?
Et pourquoi?
Ah, bien, attention. Bien sûr que quoi qu'il en soit, si la femme reprend le terrain, le mari devra rembourser l'argent à l'autre.
Bien sûr.
Mais il n'a pas d'argent.
Gros problème.
Donc alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, il nous dit non seulement que c'est un guet cachère, mais la femme peut se servir de ce guet pour aller chercher des biens qui sont hypothéqués. Ça veut dire qu'il considère ce guet cachère à 1000%.
Elle reprend ses biens.
D'accord. Elle reprend, oui. Enfin, pas elle reprend ses biens. Elle va se servir pour sa ketouba.
En priorité.
En priorité. C'est-à-dire qu'on considère le guet cachère à 1000%. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a compris au début de la Mishnah? Au début de la Mishnah, on a compris que c'était une permission que les Rami m'ont donnée pour pas que l'enfant soit mamzer. Ce qu'on a compris. On a compris qu'ils ont un petit peu arrangé. Rabbi Elazar dit non. C'est pas une permission, c'est un guet cachère à 1000%. La femme, son divorce est cachère, son remariage est cachère, dans les biens hypothéqués, elle peut faire ce qu'elle veut. Chez En Edim Khotim à la guette, et là, Mikne Tikkun Haolam. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbi Elazar? Rabbi Elazar nous dit que la seule raison pour laquelle on a demandé de signer, donc ça, il en marque loquette avec Rabbi Meir, hein, la seule raison pour laquelle on a demandé aux témoins de signer sur le guet, c'est pourquoi? C'est seulement peut-être Tikkun HaOlam. Tikkun HaOlam, c'est, comme on l'avait traduit avant, on avait eu plusieurs à la chotte, c'est l'intérêt général. C'est quoi? Ça veut dire quoi l'intérêt général? Ça veut dire que normalement, les témoins les plus importants, on a dit, c'est quel témoin? C'est les témoins, selon Rabbi Lazar, les témoins les plus importants, c'est quel témoin, M. Guéniche?
De la
C'est celui qui...
C'est les témoins de la transmission. Ah, pourquoi on fait signer quand même? C'est pour l'intérêt général, parce qu'on se dit peut-être que ces témoins-là vont mourir. Et le jour où ils vont mourir, on ne peut plus les faire parler. Alors que s'il y a une signature, comprenez, une signature, ça peut se... Une signature, ça peut se vérifier. On peut aller chercher les enfants de cette personne-là. Est-ce que vous reconnaissez la signature? Oui. Est-ce que votre père était de confiance? Ben oui, j'en ai preuve que notre père était de confiance, donc c'est bon. Donc une signature papier, c'est toujours beaucoup mieux. C'est de l'intérêt général. Mais c'est pas pour autant que si on ne l'a pas fait, le guet n'est pas caché.
C'est surtout pour que...
Rabbi Lazar.
Alors attends, ça c'est pour préserver les biens de la femme divorcée, ou pour essayer de sauver le statut de l'enfant mamzer?
Non, toutes les façons, c'est pas mamzer. Ça on l'a déjà dit. Tout le monde est d'accord que c'est pas mamzer. Même Rabbi Meir. Et là, ce qu'il veut nous dire, c'est que le guet est caché à 100%. C'est que c'est pas un guet qu'on a trafiqué pour que l'enfant soit pas mamzer.
Donc il peut avoir des imbroglios quand même très importants. Donc, vis-à-vis de monnaie.
Bien sûr. Bien sûr. Parce que selon Rabbi Meir, à la limite, ils vont dire, bon écoutez, madame, on vous sauve les enfants, mais l'argent, il faut refaire le guet. Et si le mari il est pas là, bah, tant pis, trop tard. On a les créanciers, ils vont dire, mais madame, nous, ce guet-là, il n'est pas cachère. Bon, ils vous ont facilité pour vous les enfants mamzer, mais c'est tout. Rabbi Lazar dit non, le guet est cachère. Ah, il n'est pas signé. C'est pas grave, la signature c'était que pour l'intérêt général. Mais en vérité, ce qui compte, c'est les témoins de la transmission. Donc ça c'était pour la Mishnah d'Alet. Ensuite, la Mishnah elle continue avec la chose, on l'a dit comme ça. Shnaim Sheshalchu Shnei Gitim Shavim. Deux personnes qui ont le même nom. Et que donc ils ont le même nom et leur femme s'appelle avec le même nom aussi. Et chacun a envoyé un guet à sa femme. D'accord ? Chacun a envoyé un guet à sa femme. Donc les deux ont envoyé un coursier pour envoyer le guet.
Le même coursier.
Elle aussi, elle a le même nom.
Non. Les deux ont envoyé un coursier.
Ben oui, elle a le même nom.
D'accord. Le mari a le même nom, les maris ont le même nom, et les femmes ont le même nom. Ça peut arriver. Faut oublier qu'à l'époque, on n'avait pas les noms de famille. D'accord. Donc à l'époque, bon. Donc les mêmes noms. Voilà, juste ici, combien de Eliaou Ben Yosef on a dans la chouvise ici?
4.
On a 5.
4, c'est sûr.
Bon. Vous voyez, ça s'est vite fait. Donc, bon, les femmes sont pas les mêmes noms quand même. Hein. Il faut quand même. Alors, deux personnes qui ont envoyé, donc deux maris qui ont le même nom, et deux femmes qui ont le même nom, qui ont envoyé les deux par un coursier les guettes à la femme. À leur femme. Et donc le guet, les deux guettes sont les mêmes. C'est les mêmes, c'est la même ville, même chose, même date, tout la même chose. Venit Arvu, et les guettes se sont mélangées. Les coursiers, ils sont rencontrés à l'hôtel, et ils ont posé leurs affaires et. Le guet se mélange. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, on avait dit que le guet doit être écrit pour la kavana de la femme, et c'est ce guet qui doit être donné. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, nous dit la Mishnah, noten shneim lazo, shneim lazo. Pas de problème. On va donner les deux guettes à une femme, et les deux guettes à l'autre femme.
Pourquoi deux guettes d'abord?
Parce qu'il y en a deux ici, il y en a deux.
Oui mais ça voudrait dire qu'à eux deux, ils ont fait quatre guettes?
Non, deux guettes, il n'y a que deux guettes ici. Mais on va donner les deux guettes à une première femme, ensuite on lui reprend, et on donne les deux guettes à l'autre femme. Parce que le fait que la femme garde le guette, c'est seulement un contrat qu'elle garde si un jour on lui pose des questions. Mais l'essentiel, c'est qu'on lui a donné. Donc qu'est-ce qu'on fait? On donne le guette. On donne les deux guettes, comme ça on est tranquille. Comme ça, il y a bien un des deux qui est bon.
Voilà, ça, comme ça on est sûr qu'il y en a un des deux qui est...
Les tichar, c'est pour ça. Im avad echad mehem. Si un des deux guettes a été perdu, quand Arachini Batel. L'autre aussi ne vaut rien. On peut rien donner à personne. Pourquoi on peut rien donner à personne? Parce qu'on ne sait pas lequel appartient à qui. Continue la Mishnah. Chamisha Sheketvu Klal Betochaget. Alors, 5 personnes qui ont écrit, écoutez bien, qui ont écrit un texte général. 5 personnes qui veulent divorcer leur femme. Il y a un effet de mode.
Allez les gars, on y va.
5 personnes, d'accord, qui ont écrit le même texte. D'accord, la même heure, tout la même chose pour 5 divorces. Par exemple, donne la Mishnah un exemple. Par exemple, ils ont écrit tel jour, d'accord, Ish Plouni Megarash Plounit, tel homme divorce telle femme, ou Flouni Plounit, et un tel divorce un tel, Veadim il matin. C'est-à-dire qu'ils ont fait un guet pour 5 personnes.
Il y avait les 5 noms dans le même guet.
Les 5 noms dans le même guet.
Oui.
Un guet commun.
Un guet commun.
En 5 exemplaires.
Ils n'ont pas voulu écrire un écrivain qui va écrire
par exemple.
5 guettes.
Elle dit, elle m'a déjà assez coûté cher comme ça, celle-là.
Une seule.
Allez, hop.
Voilà. Photocopie.
Un guet commun, mais en 5 exemplaires.
Non, pas photocopie.
Ouais,
non. Un exemplaire. Un exemplaire.
De sa main. Chacun écrit de sa main.
Non. Qui écrit de sa main? Personne, il n'y a pas d'écriture.
Ah, il n'y a pas 5 guettes avec les 5 noms dedans.
Un seul guette.
Un
seul guette avec 5 noms.
Un tableau de guettes.
Ah, c'est pire encore.
Un tableau de guettes.
La collégiale.
D'accord.
Annonce divorcé des dames suivantes.
Véhédi Milmata.
Ah, que le
c'est ça, hein.
Madame Intel, oui, moi.
Présente. Divorcé, pendre.
Alors, vas-y, c'est intéressant. Alors,
d'accord. Véhédi Milmata. Et c'est un guette qui est signé. Il est signé avec les témoins, oui, devant nous.
Ouais. Il est remis à chaque...
Devant nous, le guet a été transmis à ses 5 femmes, etc. Le guet est cachère. Écoutez bien, Kulam Kshirim. Tout est cachère.
Bon, les enfants...
Veinaten.
Vas-y.
Veinaten, les chol achat veachat. Par contre, il faudra le donner en main propre à chacune des 5 femmes. D'accord. Alors après, bien sûr, ce qu'on peut faire, on peut après, la femme, si elle veut... Elle peut demander au Beddin de lui faire une copie conforme.
Copie conforme.
Elle peut.
Eh oui.
D'accord. Par exemple, le Beddin, il peut écrire un texte en disant « Nous témoignons que cette femme est bien divorcée avec le cachet du Beddin, et c'est bon, copie conforme. » Mais ce qui compte ici, c'est l'acte de donner le guet.
Oui. Cher, on accepte tout ça, alors.
Oui.
On accepte que
ça veut dire que le guet ne doit pas être forcément individuel.
Comme il a dit Claude, s'ils ont pris un coup derrière, ils ont bu par exemple, on accepte ça. Que 5 personnes se réunissent
et dire... Les témoins, ils
écoutez, les témoins, oui,
ils divorcent. Ils étaient normaux, hein, quand ils ont signé, ils n'étaient pas bourrés.
Alors, Ayakatouv, d'accord, Ayakatouv, Tofes, Lechol, Achat, Vachat. Maintenant, si on a écrit Tofes, comment il s'agit de Tofes ? C'est le modèle ? Oui, sinon, comment ça s'appelle Tofes ? Le texte, bon, Tofes, en hébreu, c'est un modèle. Pour chaque mine, ça veut dire comme ça. Là, dans l'exemple que je vous ai donné, il a écrit... D'accord ? Tel jour, telle et telle date, un tel a divorcé un tel a divorcé une telle, un tel a divorcé une telle, 5 noms, et ensuite il y a le reste du texte du guet. Ça c'était cachère. Maintenant, si ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est que ils ont écrit le texte intégral du guet 5 fois. Dans le même parchemin. C'est pas la même chose.
D'accord.
C'est-à-dire que 5 fois on a écrit telle date, un tel a divorcé telle femme.
Sur le même support.
Sur le même support, on prend telle date, un tel a divorcé un tel, d'accord ? Tout ça sur le même support, c'est un long papier. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans ce cas-là ?
Ça vient du grec, hein, Tophès.
Et encore une fois, ça vient du grec, Tophès.
Oui, disforme ou type.
Oui, c'est un modèle. Veidi Milmata, et les témoins sont tout en bas. Alors, s'il y avait 5 fois les témoins qui ont signé, c'est bon. Pas de problème.
Oui.
Parce qu'après, bon, si on veut, on le découpe. Mais là, le problème, c'est quoi ? C'est que les témoins sont tout en bas.
Ça se trouve, ils n'ont lu que le dernier texte.
Ah, il y a un seul guet qui est cachère. Lequel ?
Le dernier texte.
Le dernier. C'est le pourquoi, qu'est-ce que nous dit la Mishnah ? Et Shehedin Nikrim Imo Kacher. Le guet que les témoins se lisent avec, littéralement, ça veut dire les témoins suivent le dernier guet. Ce guet-là est Kacher. Cette femme est divorcée. Tous les autres guets, c'est du pipeau, tu peux les jeter. D'accord ?
En l'occurrence,
parce que les témoins sont liés qu'au dernier guet.
À une époque, la peau coûtait tellement cher, le parchemin.
Ouais. Je finis avec le dernier Mishnah.
J'ai essayé de faire un prix de gros.
Mais quel peut-être, on va s'arrêter ici. On continuera la semaine prochaine. Alors, Bézrat Hachem la semaine prochaine, Sioum, si Dieu veut.
Et juste une petite question. Là, parce que je... si les témoins qui signent le guet sont de la même famille que l'un des deux mariés, est-ce qu'ils ont le droit de signer un guet ?
Non, ils ne peuvent pas être carov.
C'est ça, ils ne peuvent pas être témoins.
Non, ils ne peuvent pas être proches de votre famille. Proche,
c'est-à-dire un membre de la famille ou voisin ?
Membre de la famille.
Membre de la famille, d'accord.
C'est les 7 proches, non ?
Ouais, il y a une série, on avait cité la série.
Oui, oui, oui.
C'est la même série que pour le mariage. On avait cité au début de la Gemara Kiddushin, de la Mishnah Kiddushin. Il avait dit, attends, je te dis.
J'ai connu quelqu'un qui avait épousé sa
sœur. C'est son frère, sa sœur, enfin, de toute façon, la sœur, c'est son frère, son père, son beau-père, il y a toute une série.
Ouais, d'accord.
Voilà. Allez, Bokertov.
Pour ce joli cours.